Bon, nous poursuivons notre étude sur la théologie réformée systématique. Nous sommes rendus à la leçon 15 et nous allons regarder aujourd'hui deux erreurs concernant la révélation spéciale, le romanisme et le libéralisme. Alors, on va regarder une par une chacune de ces deux erreurs-là. Alors, on sait que la révélation spéciale de Dieu, c'est la fondation pour le christianisme biblique. Une erreur majeure dans la fondation d'un édifice conduira vers des fissures dans la superstructure et éventuellement vers son écroulement. Nous devons donc surveiller de très près les erreurs à cette doctrine fondamentale. Nous devons comprendre le principe de l'interconnectivité de l'ensemble des vérités et des doctrines bibliques. Toutes les erreurs et distorsions de doctrine proviennent de deux pratiques, soit ajouter une source de connaissance humaine, comme par exemple la tradition de type du catholicisme romain, et de mettre ça à côté de la Bible ou au-dessus d'elle ou à sa place. Ou l'autre erreur, c'est de mal interpréter les Écritures en donnant trop de place à la raison humaine ou aux émotions humaines, comme dans le libéralisme protestant. Alors, examinons de façon plus détaillée chacune de ces deux erreurs. La première, l'erreur de la tradition hiérarchique du catholicisme romain. Alors, les solas de la Réforme, et plus particulièrement sola scriptura et sola fide, ont joué un rôle capital dans le développement d'un mouvement dirigé par Dieu pour corriger les erreurs doctrinales de toute première importance dans son Église. Alors, on rappelle les cinq sola de la Réforme. Sola scriptura, qui veut dire par l'Écriture seule. Sola fide, par la foi seulement. Sola gratia, par la grâce seulement. Solus Christus, par Christ seulement. Et soli Deo Gloria, à Dieu seul la gloire. Alors, on sait que ces cinq solas-là ont joué un rôle très important au moment de la Réforme, et comme on vient de le mentionner, plus particulièrement les deux solas scriptura, donc le ramener les Écritures à leur véritable place dans la vie des chrétiens, et la même chose avec sola fide, par la foi seulement. Alors, la confession de foi des Pays-Bas de 1561, qui dans sa version latine s'appelait la Confessio Belgica, apportait un éclairage fondamental concernant les Saintes Écritures. Alors, on voit par cela que déjà les réformateurs voulaient corriger certaines choses de la pratique de l'Église catholique de l'époque, en leur rappelant les vérités des Écritures. Alors, à l'article 7 de la Confession de foi des Pays-Bas de 1561, on lit, par exemple, l'article 7 est rédigé pour parler de la perfection des Saintes Écritures. Alors, je vous lis l'article 7. Nous croyons que cette Écriture sainte contient parfaitement la volonté de Dieu et que tout ce que l'homme doit croire pour être sauvé, y est suffisamment enseigné. 1. Tout ce qui a trait à la manière dont Dieu nous demande de le servir y est décrit en long et en large, de sorte que personne, pas même un apôtre ni même un ange du ciel, ne doit enseigner autre chose que ce que les Saintes Écritures enseignent. 2. Comme le dit l'apôtre Paul dans Galates chapitre 1, versets 8 et 9, le fait qu'il soit défendu ou de retrancher, d'ajouter ou de retrancher la parole de Dieu, lui montre que c'est important. Troisièmement, démontre bien que sa doctrine est parfaite et complète à tous égards. Quatrièmement, par conséquent, il ne faut pas considérer les écrits des hommes, même des hommes les plus saints, comme étant de même valeur que les écrits divins. Et cinquièmement, il ne faut pas non plus considérer la coutume, le grand nombre, l'ancienneté, le passage du temps, la succession des personnes, les conciles, les décrets, les décisions officielles comme étant de même valeur que la vérité de Dieu. Et sixièmement, car la vérité de Dieu est au-dessus de tout. Septièmement, tous les hommes sont en effet menteurs et plus vains que la vanité même. Huitièmement, c'est pourquoi nous rejetons de tout notre cœur tout ce qui ne s'accorde pas à cette règle infaillible. Neuvièmement, comme les apôtres nous l'enseignent en disant, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Et si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Alors, c'est des choses qui peuvent être vérifiées en allant vérifier, en allant voir la confession de foi des Pays-Bas de 1571. Alors, on voit que les réformateurs, déjà, sentaient le besoin d'amener des corrections à ce qui se pratiquait à l'époque par le catholicisme. Alors, ce qu'on va faire, on va regarder ce qu'enseigne le catholicisme dans son catéchisme officiel de l'Église catholique de 1994. Alors, voici ce qu'ils enseignent, et ensuite, on va regarder où est l'erreur dans leur enseignement. Alors, la première chose qu'ils enseignent, erreur importante du catéchisme de l'Église catholique de 1994, la révélation divine a été relayée de deux façons, selon eux. Oralement, comme tradition sacrée, et par écrit, dans l'Écriture sainte, composée, selon eux, de 46 livres pour l'Ancien Testament, et de, j'ai marqué 39, mais là, excusez-moi, c'est une erreur, il faudrait la corriger, 27 livres du Nouveau Testament. Alors, dans le fond, quand ils disent 46 livres pour l'Ancien Testament, on sait que c'est pas 46, c'est 39, et le Nouveau Testament, c'est 27. Alors, je vais la corriger sur le feuillet pour ceux qui téléchargent la leçon. Alors, quelle est l'erreur de cette affirmation-là du catéchisme de l'Église catholique? Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent la tradition sur le même pied que la Bible. En plus, ils mettent 7 livres non canoniques et ils les ajoutent aux 39 existants. Deuxièmement, l'Église catholique ne dérive toute leur vérité des Saintes Écritures seules. Le deuxième point, l'Église catholique ne dérive pas toute leur vérité des Saintes Écritures seules. Les traditions et l'Écriture, selon eux, doivent être acceptées de façon égale, avec des sentiments de dévotion et de révérence. Donc l'erreur là-dedans consiste à accorder la même valeur à la tradition catholique qu'à la Bible. Troisièmement, ce qu'ils affirment, c'est que le magistère, c'est tout simplement l'enseignement officiel du pape et des évêques. Selon eux, seul le magistère a l'autorité d'interpréter la parole de Dieu. Lorsque le magistère parle en matière de doctrine, l'Église catholique est obligée d'adhérer irrévocablement à son enseignement. Quelle est l'erreur de cette affirmation-là? C'est que, dans le fond, les Écritures nous apprennent que seul le Saint-Esprit peut interpréter correctement la Bible. Et le quatrième point qu'ils enseignent dans leur catéchisme catholique de 1994, ils disent que le pape, comme suprême pasteur et enseignant des fidèles, parle avec infaillibilité lorsqu'il proclame par un acte définitif une doctrine relative à la foi ou à la morale, et sa doctrine doit être respectée par l'obéissance de la foi. Alors, quelle est l'erreur qui consiste dans cette affirmation-là? C'est celle que l'infaillibilité du pape est une fausse doctrine. Et cinquième erreur qu'on voit dans le catéchisme officiel de l'Église catholique de 1994, qui dit « Même lorsque le pape ne prononce pas un acte définitif, les fidèles doivent lui donner un fidèle assentiment religieux. » Quelle est l'erreur? L'erreur est la suivante, c'est qu'un enseignement d'homme, aussi illustre et connu qu'il soit, demeure humain et faillible. Rappelons-nous les versets 6 à 8 du livre de Galates au chapitre 1. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Alors, on rappelle qu'anathème, ça veut dire maudit. Le grand problème avec les affirmations romaines classiques est qu'il n'y a aucune indication dans les Saintes Écritures d'une deuxième source de révélation divine faisant également autorité à côté de la Bible. Les catholiques romains utilisent abusivement le texte suivant de l'Évangile de Jean pour justifier leur position. Ils utilisent Jean 16, versets 12 et 13, qui dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. » Alors, il utilise ce verset-là pour justifier leur adoption de la tradition et de la mettre sur le même pied que la Bible. Notre réponse à cela est qu'il n'y a rien dans les paroles de Jésus qui laisse entendre que n'importe quel officier de l'Église dans les âges futurs hériterait de l'infaillibilité. N'oublions pas non plus que les papes et les conciles catholiques se sont continuellement contredits. De la même manière que les enseignements de Moïse et des prophètes furent corrompus par les pharisiens jusqu'à ce qu'ils contredisent carrément la parole de Dieu, le Nouveau Testament avertit que de faux enseignants envahiront l'Église, pervertiront la vérité et entraîneront les fidèles dans le péché, dans le but de les conduire vers l'apostasie. Apprenons que toutes les traditions doivent être testées par la parole de Dieu. On peut, par exemple, lire dans les versets 6 à 8 et le verset 16 de Colossiens, chapitre 2. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Et le verset 16, « Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. » Paul aussi nous avertit des dangers de la tradition dans Galates chapitre 1, versets 13 et 14. « Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. » Le Seigneur Jésus lui-même aussi nous a mis en garde dans Marc chapitre 7, versets 6 à 9. Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore, « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » Alors on voit le Seigneur Jésus lui-même nous indique où s'amène la tradition. Par exemple, la doctrine de la justification par la foi seule a été supplantée et remplacée par des rituels qui imitent de façon grotesque l'adoration cérémonielle de l'Ancien Testament par la messe, qui, dans le fond, est un déni de l'œuvre finie de Christ. On pourrait aller regarder toutes ces choses-là en détail dans Hébreux chapitre 9 et chapitre 10. De plus, fut construit un système d'ascèse en imposant des formes d'affliction du corps dans un effort de bâtir un système d'auto-justification basé sur les mérites humains. Les Écritures nous rappellent cela dans Colossiens chapitre 2, versets 20 à 23. « Si vous êtes mort avec Christ aux rudiments du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, car ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. » Une dernière observation est nécessaire pour nous démontrer les dangers de la tradition, soit le fait que la tradition est une chose dynamique, c'est-à-dire qui évolue sans cesse, et qui risque d'enliser ceux qui la suivent dans encore plus d'erreurs dans le domaine de la foi et de la pratique. Alors, on sait qu'on peut regarder le passé, mais on regarde que c'est pas fini, la tradition étant conservée et développée, puisqu'il y a toujours de dynamique qui va conduire encore plus loin dans l'erreur. La deuxième point qu'on va regarder, c'est l'erreur du libéralisme, ou qu'on pourrait appeler la subordination de la Bible à la raison humaine. Autrement dit, c'est de faire passer la raison humaine avant les Écritures elles-mêmes. Alors, une autre erreur majeure fut celle de tenter d'élever la raison humaine au-dessus de la Bible. Cette erreur s'est fortement développée au 18e siècle sous le nom de siècle des Lumières. Au lieu d'élever la tradition pour remplacer l'autorité divine de la Bible, ils voulurent élever la raison humaine au-dessus de la Bible. Un des grands leaders de ce mouvement, le philosophe célèbre Emmanuel Kant, qui a vécu de 1724 à 1804, a parlé du mouvement de la façon suivante. Il dit « L'illumination, ou les lumières, en anglais c'est « enlightenment », et il dit que tout ça c'est l'émergence de l'homme de son immaturité auto-imposée. Il dit « L'immaturité est l'incapacité d'utiliser sa compréhension sans l'aide d'un autre. » Alors, se tenant sur le terrain autodidacte de l'autonomie rationnelle, ces auteurs ont nié la révélation spéciale divine, soit la Bible, et ont localisé la source ultime de la vérité dans les processus naturels de la raison et de la vie humaine. En un mot, ils ont une vision anthropocentrique du monde au lieu d'une vision théocentrique et biblique du monde. La Bible devint ainsi juste un autre livre, un livre ordinaire, un livre humain. Beaucoup d'autres philosophes se joignirent à ce mouvement et à cette volonté de détrôner la Bible et de détrôner Dieu. Par exemple, le philosophe Baruch Spinoza, qui a vécu de 1632 à 1677, a été un précurseur de ce mouvement-là des Lumières. Rejetait les miracles de la Bible parce que, supposément, ils étaient contraires aux lois et à l'ordre de la nature. Il considérait plusieurs parties de la Bible comme imparfaites, corrompues, erronées et contradictoires. Il considérait la Bible comme la parole de Dieu que dans la mesure où elle conduisait les hommes vers la piété. Quant à la vérité, il croyait qu'elle dérivait non pas de la Bible, mais du raisonnement philosophique. Un autre philosophe français, Voltaire, qui son vrai nom c'était François-Marie Arouet, qui a vécu de 1694 à 1778, lui avait dit « Je crois en Dieu, non pas le Dieu des mystiques et des théologiens, mais le Dieu de la nature, le grand géomètre, l'architecte de l'univers, le premier moteur, inaltérable, transcendantal, éternel. » Alors on voit que l'utilisation des termes architecte de l'univers, ça ressemble drôlement à la franc-maçonnerie. Comme déiste, Voltaire croyait que la Bible était une maladie de l'esprit, provoquant les hommes à une fièvre fanatique. Un autre philosophe français, Jean-Jacques Rousseau, qui a vécu de 1712 à 1778, cherchait quant à lui un déisme imprégné d'enthousiasme émotionnel. Il déclarait, comme sa confession de foi, il disait « Tout ce que je ressens comme étant juste est juste. Tout ce que je ressens comme étant faux est faux. Je ne vous parlerai pas de philosophie, mais je vous aiderai seulement à consulter votre propre cœur. » Rousseau a dépouillé la piété de sa révélation et de sa doctrine divine, laissant derrière elle une religion du cœur, guidée par le cœur. Un élément central du modernisme libéral est la négation du surnaturel et le placement panthéiste de la divinité dans la vie naturelle de l'homme. Les théologiens libéraux recherchent une révélation de l'intérieur et non pas une révélation d'en haut. Le libéralisme peut souligner la divinité du cœur, peut souligner la divinité du cœur humain, autrement dit, ses émotions, ses sentiments, ou la divinité de l'esprit humain par le raisonnement. Nous avons cité plusieurs philosophes et érudits du passé pour démontrer les dangers du libéralisme théologique, mais nous devons nous rappeler que cette philosophie continue de nos jours. Un exemple est le théologien Peter Hens, E-N-N-S, qui s'est éloigné du christianisme réformé en argumentant que la Bible contient de fausses légendes et des mythes et qu'elle caricature Dieu très souvent, selon lui. En réponse aux affirmations du modernisme libéral, nous devons apporter les observations suivantes. Premièrement, première observation, ces promoteurs qui se prétendent encore chrétiens enseignent l'incrédulité face à la parole de Dieu. Ils rejettent la Bible pour la remplacer par de la philosophie humaine. Le grand théologien chrétien Herman Bavinck a déclaré en parlant d'eux. En conséquence, la dogmatique est tombée non seulement formellement, mais aussi matériellement, complètement sous l'emprise de la philosophie. Alors, certains d'entre eux parlent chaleureusement du Christ, mais ils expriment un Christ de leur propre invention. Leur but ultime est de rendre le christianisme plus acceptable aux incroyants de ce monde en le dépouillant de ses vérités et doctrines fondamentales. Deuxième réponse, ces promoteurs du mensonge utilisent un double langage. Le pasteur et théologien chrétien J. Gresham Machen, qui a vécu de 1881 à 1937, affirma de façon catégorique que les théologiens et prédicateurs libéraux continuent d'utiliser un vocabulaire et une terminologie traditionnelle, mais en corrompant le tout avec un système de pensée complètement étranger aux Saintes Écritures. Les modernistes seraient plus honnêtes s'ils déclaraient ouvertement ne pas croire la Bible. Ils devraient informer le public qu'ils se font les défenseurs et promoteurs d'une religion très différente du christianisme authentique et biblique. Troisième point qu'on se doit de se rappeler concernant ces choses-là, c'est que les modernistes ont des arguments contre le surnaturel qui ne sont absolument pas basés sur la raison ou la science. Les miracles sont raisonnables si Dieu existe et qu'il est le créateur et le sustentateur de toutes choses. Deux passages des Écritures, Jérémie, chapitre 32, verset 17. « Ah, Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre, par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. » Et le psaume 104, verset 24, « Que tes œuvres sont en grand nombre, éternel, ô éternel, tu les as toutes faites avec sagesse, la terre est remplie de tes biens. » De plus, on doit se rappeler que les expériences d'un chimiste ou les observations d'un astronome ne peuvent directement prouver ni réfuter l'existence des esprits, puisqu'ils sont ni matériels, ni mesurables, ni visibles. Leur arrogance est visible lorsque nous observons leur mépris pour les peuples anciens, en croyant qu'ils étaient moins intelligents que nous et plus naïfs et crédules que nous. Quatrième point qu'on veut regarder, c'est que l'accent mis par le libéralisme sur l'expérience spirituelle est vide parce qu'il n'enracine pas l'expérience dans la vérité. Le grand pasteur et théologien Jonathan Edwards, qui est célèbre, qui a vécu entre 1703 et 1758, a écrit « Les affections divines gracieuses naissent du fait que l'esprit est éclairé correctement et spirituellement pour comprendre ou appréhender les choses divines. Les saintes affections ne sont pas chaleur sans lumière. » Allons regarder quelques versets dans le psaume 33. D'abord, le verset 1. « Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, la louange sied aux hommes droits. » Versets 4 à 6. « Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture, la bonté de Dieu remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. » Et le verset 7 à 9. « Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il a dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. » Séparer l'expérience religieuse de la vérité et de la doctrine biblique, c'est générer un fantôme d'émotions sans fondement sûr. Cinquièmement, l'attaque du modernisme sur le dogme chrétien est hypocrite. Il n'est pas moins dogmatique et il ne fait que remplacer le dogme chrétien par son propre dogme. Et sixièmement, la confiance du libéralisme dans le raisonnement et le sentiment humain est directement contraire à la vérité chrétienne de la corruption humaine. En d'autres termes, la perspective libérale se développe à partir de la racine empoisonnée du pélagianisme, du déni du péché originel et de la corruption héritée. Regardons quelques passages. Ézéchiel, chapitre 6, verset 9. « Vos réchappés se souviendront de moi parmi les nations où ils seront captifs, parce que j'aurai brisé leur cœur adultère et infidèle, et leurs yeux qui se sont prostitués après leurs idoles. Ils se prendront eux-mêmes en dégoût à cause des infamies qu'ils ont commises, à cause de toutes leurs abominations. » Alors on voit que les Écritures, loin de parler du bon cœur des hommes, m'en parlent comme étant vraiment très mauvais. Et on peut regarder aussi Nombre, chapitre 15, verset 39. « Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez, et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique, et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. » Et un verset très fort qu'on cite souvent, Jérémie chapitre 17, verset 9, « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? » Et Éphésiens chapitre 4, verset 17 à 19, « Voici donc ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Notre seul espoir se trouve dans les Saintes Écritures, dans lesquelles se trouve la lumière du Christ et notre grand et glorieux pédagogue. Ésaïe, chapitre 8, verset 20, nous avertit « À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. » Et aussi dans Ésaïe, chapitre 9, verset 2 et verset 6, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alors, quelques applications. Le catholicisme romain et le modernisme libéral, que l'on croyait farouchement opposés pendant une grande partie de leur histoire, puisent au même puits empoisonné, l'exaltation de l'homme sur la parole de Dieu. On exalte les dirigeants de l'Église, en particulier le pape, comme un guide divinement fiable. L'autre exalte le raisonnement et ou les sentiments humains comme juge suprême de la religion. Aux deux, nous devons dire avec Ésaïe, Ésaïe chapitre 2, verset 2, « Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? » Également, Ésaïe chapitre 40, verset 8, « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu, de notre Dieu, subsiste éternellement. » Et dernier verset, Ésaïe, chapitre 66, verset 2. « Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. » Louons le Seigneur et rendons grâce pour son merveilleux cadeau des Saintes Écritures. Honorons-les en leur donnant la place qu'elles méritent dans nos vies quotidiennes, par sa grâce et pour sa gloire.